C'est le dernier jour de cette retraite, de ce parcours. Je n'ai pas numéroté sur le plan que je vous ai donné. Ah, tout se termine à Jérusalem, mais on ne peut plus quitter Jérusalem une fois qu'on en a un petit peu perçu le mystère. Mais toutes les routes de l'existence demandent à devenir des routes d'Emmaüs. C'est ce que je voudrais vous montrer en ce dernier jour, la route d'Emmaüs. Alors je vous ai mené dans une nécropole au nord de Jérusalem, une nécropole somptueuse. N'allez pas me faire dire que j'ai trouvé un autre Saint-Sépulcre. Non, je vous ai montré assez soigneusement, on y a passé toute une matinée, que la tradition là du Saint-Sépulcre est extrêmement solide et sérieuse. Non, mais l'imagination, il faut bien le dire, était quelque peu frustrée. Alors, je vous emmène ici, et on ne peut pas mieux trouver pour imaginer ce qu'était la région au temps de Jésus, une région de carrières et de tombeaux et de jardins. C'est au nord de Jérusalem. Vous avez remarqué que les nécropoles sont en général à l'est pour deux raisons. C'est qu'à l'est, le calcaire sénonien est beaucoup plus friable, c'est facile à creuser. Et puis aussi parce que ces nécropoles devaient dégager des odeurs nauséabondes. Et les vents dominants venant de l'ouest, et l'est étant désertique, les mauvaises odeurs étaient chassées comme ça vers le désert. On compare dans le psaume la bouche du calomniateur à un sépulcre béant. Non, il y a toujours des gens qui échappent aux coutumes, même quand elles ont force de loi. Et ici, vous avez des tombes assez somptueuses. Il y en a une encore plus belle. Les avatars de l'histoire ont fait que c'était un territoire français. Cette tombe est tellement belle qu'on l'appelait tombeau des rois. Et à l'entrée, il y a un magnifique écriteau, République française, tombeau des rois. Alors ici, c'est un peu moins beau. C'est quand même assez important. On l'appelait Sanhedria. Vous trouvez ça sur les cartes, c'est la sortie de Jérusalem vers le nord. On va lire, si vous voulez, pour commencer. Vous vous rappelez, les saintes femmes, là, lorsque Jésus est descendu de croix, c'était le jour de la préparation, le Shabbat commençait à poindre, hein, épée fosken, ça fait allusion à la coutume juive d'allumer les lumières le soir du Shabbat, quand le Shabbat commence, les rêves Shabbat, et puis elles regardèrent comment était le tombeau, comment son corps avait été mis, puis elles s'en retournèrent et préparaient aromates et parfums, et le Shabbat, elles se tinrent en repos selon le précepte. Et c'est seulement le premier jour de la semaine qu'elles viennent au tombeau, qu'elles trouvent vide. Et ici, je passe de Saint-Luc plutôt à Saint-Jean, parce que, comme on l'a vu en Galilée, en faisant ce pèlerinage aux sources de l'intelligence chrétienne, à l'école de Saint-Jean, eh bien, on a vu que Saint-Jean, paradoxalement, était à la fois le plus spirituel des évangélistes, et aussi le plus précis au point de vue topographique et chronologique, paradoxalement. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit en Galilée. Alors, je cherche toujours parmi les groupes une volontaire qui s'appelle Madeleine, il y en a de moins en moins, c'est un nom qui se perd, pour lire le chapitre 20 de Saint Jean, pour appeler Marie-Madeleine qui prend Jésus pour le jardinier. Alors, cette phrase extraordinaire, c'est caractéristique, lorsque Jésus apparaît après sa résurrection, les sens ne sont plus habilités à percevoir tout de suite la réalité de sa présence qui est plus réelle que jamais. Et Marie-Madeleine le confond avec le jardinier. Les disciples d'Emmaüs pourront cheminer avec lui pendant un certain temps sans pouvoir le reconnaître. Hein. Aussi au bord du lac, là, vous voyez, c'est une des constantes. La présence est plus réelle que jamais, mais alors, et on va le reconnaître à la fraction du temps. On verra ça sur la route d'Emmaüs. Mais avant de passer à la route d'Emmaüs, selon les Écritures, je voudrais qu'on recentre la conviction, la certitude de foi de la résurrection dans l'axe de la santé, au fond, de la pensée juive dont nous sommes héritiers, qui échappe aux dissociations artificielles. Tenez, on vient d'entendre la fin de ce chapitre ici. Jésus lui dit, va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et on peut dire, au fond, que toute l'expérience que nous avons faite se résume dans un seul mot, d'une seule syllabe, cette proposition grecque prospo, qu'on ne sait pas comment traduire, qui se trouve au début de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le verbe était prostéon. Oh, les théologiens disent en relation vers Dieu, et le verbe était Dieu. Alors le verbe détourne en quelque sorte cet élan éternel qu'il a vers le Père, il passe, on a fait tous les détours en surface et en profondeur pour être sur la trajectoire de ce passage, nous sommes rencontrés, et puis il nous entraîne vers son Père devenu notre Père. C'est Saint Ignace qui parle de l'Esprit qui est comme une source en nous et qui crie « Allons vers le Père ». C'est tout le voyage. L'image de Dieu parfaite est venue nous dépanner, nous pauvres images de Dieu qui avions un peu renoncé à l'aventure du bonheur. Il est venu nous rencontrer et il nous entraîne dans son élan. Et maintenant, par lui, avec lui et en lui, dans l'Esprit Saint, tout honneur et toute gloire. Vous sentez, tout le voyage que nous avons fait se résume dans un seul mot, une seule de monosyllabique. Bon, ceci dit, on peut se demander, Et beaucoup de chrétiens se demandent, est-ce qu'on n'est pas en train de se berner, de surcompenser, de se créer des illusions? Rien de plus absurde que la mort, ça jette une ombre d'absurdité sur tout le déroulement de l'existence. Est-ce qu'on n'est pas en train de projeter nos inspirations les plus profondes et d'inventer? Alors là, la première réponse qui vient à l'esprit, c'est le récit qu'on vient de lire. Cette richesse de détails, le plus jeune qui court plus vite que l'autre, mais il s'efface devant Pierre, et puis alors on aperçoit les linges qui gisent à terre, et le Saint-Pierre entre dans le tombeau, et il voit le suaire qui a recouvert la terre, non pas avec les linges, mais roulé à part. Qu'est-ce qui aurait pu inventer un récit aussi détaillé, puis en même temps aussi sobre? Et puis alors, il y a une deuxième réponse. La deuxième réponse, c'est que nous sommes ici dans les enracinements juifs de notre foi. Et Jésus disait une prière, « Béni sois-tu, Seigneur, roi de l'univers, qui ressuscite les morts, me chayet ametim. » Et cette certitude de foi, alors, elle est courante dans le judaïsme. Marqué, quand on fait de la religion comparée, on est étonné de voir que les juifs ont mis assez longtemps à parvenir à l'idée d'une survie. Quand on les compare aux civilisations environnantes, à Babylone, pensez aux pyramides des Égyptiens, même les Grecs, il y a une espèce de survie. Mais alors c'est une survie un peu mystico-gazeuse, on ne sait pas très bien en quoi ça consiste. C'est du spirituel, oui, c'est du spirituel, entre guillemets. Et les Juifs, alors, ont mis longtemps, pourquoi? Eh bien parce que pour eux, c'est très difficile de dissocier l'âme et le corps. Hein, ça peut se faire peut-être provisoirement, mais vraiment, qu'est-ce que c'est qu'un homme ou une femme sans son corps? Et alors ils sont réfractaires à toutes ces dissociations, se résignent facilement d'autres cultures, et ils attendent que l'histoire, dans son réalisme, les amène progressivement à la certitude que Dieu qui a créé le monde est capable de recréer. Et ça, ils ont fait l'expérience d'abord collectivement dans leur histoire. Ça ne revient pas sur toutes ces interventions de Dieu, d'un Dieu qui a les issues de la mort. Vous vous rappelez le passage de la mer Rouge, la délivrance de Jérusalem, les ossements desséchés d'Ézéchiel, et cette conviction passe au plan individuel. Je crois que c'est un faux problème que se demander précisément quand, parce que le juif pense à la fois collectivement et individuellement. En tout cas, à l'époque des Maccabées, là on voit dans le deuxième livre des Maccabées, lorsque, vous rappelez cette femme qui a 7 enfants, et alors on les martyrise pour les forcer à rompre avec leurs coutumes ancestrales, on leur coupe les membres, on les scalpe, on les écorche, et ils répondent, tant qu'on leur a pas coupé la langue, c'est les rocs tués, tu nous excuses cette vie présente, mais le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle, nous qui mourrons pour ses lois. C'est du ciel que je tiens ses membres, mais à cause de ses lois je les méprise, et c'est de lui que j'espère les recouvrer de nouveau. C'est pas une spéculation sur le caractère spirituel de l'âme, et puis le caractère du corps composite qui se décompose, non, c'est une certitude de foi qui est née dans le réalisme de l'histoire. Et puis alors, il y a un autre courant de pensée. Bon, je ramasse ici tous les courants de pensée en ces derniers jours que nous avons rencontrés en parcourant la Bible. Il y a une théologie bien établie. À un certain moment, le juste doit être récompensé, puis le méchant doit être puni. Et puis voilà que la réalité dément cette vérité admise par tout le monde. On a parlé de ça à Megiddo, rappelez-vous, avec la mort injuste du plus juste de tous les rois, Josias. Et puis on a vu comment ça déclenchait une réflexion. Le juif, quand il est devant une absurdité, il ne se résout pas à l'insignifiance. Il se tape la tête, comme vous avez vu, contre le mur, là, pour arriver à trouver une signification. Ce qui est insignifiant n'existe pas. Il faut une signification. Et alors, il se casse la tête là-dessus. On a vu un Megiddo, là. Alors d'abord, on ne veut pas y penser, et puis ensuite, on essaie d'y penser de façon tâtonnante, et puis on découvre que la mort du juste n'est pas inutile, qu'elle a une signification, qu'elle a une fécondité, qu'elle provoque une conversion nationale. On se retourne vers celui qui était transpercé, et puis on transperce ceux qui nous ont menés en bateau pendant longtemps. Et la fécondité de la mort du juste, là, est symbolisée par un fleuve. Je ne reviens pas sur tout ce qu'on a dit, ce fameux fleuve capable de ressusciter la mer morte dans les prophètes. Et alors, c'est simplement, Jésus, la résurrection, c'est Dieu qui sort de son silence et qui ne laisse pas le juste voir le Shéol. Et alors, au matin de Pâques, il prend en main sa cause et à la face du monde, il le ressuscite. Et si notre foi s'arrêtait derrière la pierre du tombeau qu'on a roulée sur le cadavre de Jésus au vendredi fin, dans la nuit, eh bien, nous serions les plus malheureux des hommes. Et ce qui fait justement tout le dynamisme de l'espérance chrétienne, ce qui faisait vivre les martyrs, eh bien, c'est cette certitude que si nous marchons comme il a marché, si nous passons par où il est passé, nous parviendrons là où il est. Il y a une tête de pont par-delà l'absurde. C'est toute la spiritualité du baptême. Alors là, nous ne sommes plus du tout dans des spéculations consolatrices, nous sommes dans le réalisme de l'histoire. Et il faut se rendre compte aussi que c'est pas simplement une certitude pour notre dernier moment, quand on sera sur notre lit de mort et qu'il n'y aura plus rien d'autre. Hein. C'est quelque chose qui est déjà inscrit par le baptême au plus profond de notre être, par le caractère baptismal, comme disent les théologiens. Ce caractère de mort et de résurrection a été imprimé au plus profond même par le baptême. C'est saint Paul qui dit ça dans l'Épître aux Romains. Ne savez-vous pas, ignorez-vous que baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que comme le Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous vivions nous aussi d'une vie nouvelle. Si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Il faudrait, pas saint Paul a vécu ce mystère de mort et de résurrection sur la route de Damas. Mais alors tout au cours de son expérience, de sa vie, il a fait l'expérience que ce baptême qu'il avait reçu là, eh bien ça se traduisait instant par instant. Un peu comme quand à chaque moment on inspire, on reçoit la vie, à chaque moment on expire, hein, on rend notre souffle, viendra un moment où nous rendrons notre dernier souffle, mais dans la certitude que Dieu à qui nous remettons ce dernier souffle nous le rendra, et qu'il est capable de nous recréer, lui qui nous a créés. Et alors là il faut écouter saint Paul, c'est absolument... Prenons-le à Athènes. Bon, Paul arrive à Athènes, c'est raconté dans les Actes des Apôtres, chapitre 17. Il attend Timothée et puis Silas. Et alors son esprit s'échauffe, il se balade dans la ville qui est remplie d'idoles. Il s'entretient à la synagogue avec des juifs, des craignants Dieu. Et puis alors il y a aussi des philosophes, épicuriens et stoïciens qui l'abordent. Et alors les uns disent, qu'est-ce que veut bien vouloir dire ce perroquet ? D'autres, on dirait un prêcheur de divinités étrangères. Il annonçait Jésus et la résurrection. Alors on prend la résurrection d'Anastasis pour une déesse parèdre. Alors on dit, viens un peu t'expliquer là, à l'aréopage. On voudrait bien savoir un peu cette doctrine que tu enseignes. Ce sont d'étranges propos que tu nous fais entendre. On va savoir ce que ça veut dire. Tous les Athéniens, en effet, les étrangers qui résidaient parmi eux, n'avaient d'autre passe-temps que de dire ou d'écouter les dernières nouveautés. Alors saint Paul va à l'aréopage et puis il montre qu'il est capable de faire de beaux discours. Enfin, il commence par la captatio benevolentiae. Tu as dû subir des cours d'éloquence sacrée, non ? C'était très important. Alors on commence par la captatio benevolentiae. Athéniens, à tous égards, vous êtes, je le vois, les plus religieux des hommes. Parcourant en effet votre ville et considérant vos monuments sacrés, j'ai trouvé jusqu'à un hôtel avec l'inscription « Ô Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens, moi, vous l'annoncer. Alors ensuite, il montre qu'il est capable de faire de la philosophie. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui, le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Bravo, bravo, bravo. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous le souffle et toutes choses. Et si d'un principe unique il a fait tout le genre humain pour qu'il habite sur la face de la terre, s'il a fixé des temps déterminés, des limites de l'habitat des hommes, c'est afin qu'il cherche la divinité pour l'atteindre, si possible, comme un tâton, et la trouver. Aussi bien n'est-elle pas loin de chacun de nous. Alors on l'écoute, voilà. Hein, vraiment, il est digne de figurer in nostro docto corpore. C'est en elle, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi d'ailleurs que l'on dit, certains des vôtres, oui, il a des lettres, il peut citer les grands auteurs, car nous sommes de sa race. Que si nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent. Alors, dans la suite du discours, il en vient à parler de la résurrection. Alors les Athéniens, qui l'ont écouté poliment et même très séduit par cette éloquence extraordinaire, ils commencent à se trémousser, ils se regardent, ils rigolent, ils sont polis, et ils disent, écoute, on t'écoutera là-dessus une autre fois. Et alors Paul est complètement dégonflé, complètement comme peut l'être un orateur qui a été un échec, quoi. Et c'est tout à fait démoralisé. Et il avait une mauvaise santé, saint Paul. On a son portrait par un apocryphe là, de Sainte Thècle. Enfin, on le décrit, les jambes torses, un décrochu, il est chauve. Enfin, c'est Sainte Thècle qu'il décrit comme ça. Il était malade aussi. Il parle d'une écharde dans la chair. Je me suis très bien ce que c'était. Et alors démoralisé comme ça, il passe d'Athènes à Corinthe. Alors Athènes, c'était la ville raffinée, hein. Et puis Corinthe, alors prenez Marseille, multiplié par 100, un port de la Méditerranée, Corinthiazein, d'après le père Festigier, dire, vivre à la Corinthienne, c'est vivre dans la pire des turpitudes. Et alors là, il fait une expérience bouleversante. Bah, d'abord, il faut qu'il trouve du travail. C'était pas un intellectuel qui savait pas servir de ses mains. Il faisait des tentes, pas pour gagner sa vie. Alors il trouve un ménage, là, Aquilas et puis Priscille, qui avait été expulsé de Rome par un édit de l'empereur Claude. Et il se lie avec eux, et comme ils étaient du même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient fabricants de tentes. Alors le Shabbat, il discourt à la synagogue. Et puis quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra tout entier à la parole. Il faudrait qu'on puisse être capable de servir de ses mains et puis en même temps se consacrer tout entier à la parole. Et il faut se méfier des gens qui ne savent pas servir de leurs mains. Moi, je parle pour moi. Alors, à Corinthe, il fait une expérience tout à fait bouleversante. Voilà que dans ce milieu, qui n'a rien d'un milieu raffiné, Saint Paul d'abord a affaire quand même encore à cet esprit grec. Pour eux, la résurrection, c'est quelque chose de pas désirable du tout. Le corps est une prison, et tant mieux si on s'en échappe. Ce manichéisme dont nous avons parlé, il traîne un peu dans la philosophie platonicienne, et dans la mesure où la doctrine chrétienne a été pensée avec des catégories platoniciennes, eh bien, on est victime de ça. Il n'y a pas de doute qu'à Corinthe, Paul a été affronté à des relents de pensée grecque là, qui dissocient. Et le corps est une prison, il faut s'en libérer. Et on est plus ou moins platonicien par là. Alors, c'est en juif. Paul est juif. Il est de la tribu de Benjamin, circoncis du huitième jour, pharisien. Et c'est en juif que, ramassant tout le réalisme de son esprit, là, il lutte contre ces relents de philosophie grecque. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espoir dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. S'il n'y a pas de résurrection entre les morts. Alors, dans le deuxième aux Corinthiens, là, il est obligé de faire son apologie contre des gens qui se font ses détracteurs. Et alors, il parle là d'une expérience extraordinaire. Il fait l'expérience que le caractère baptismal inscrit au plus profond de lui-même agit à chaque moment de son existence. Il meurt et il ressuscite. Écoutons-le plutôt. Ce trésor, il parle aussi de l'évangile comme d'un dynamisme, d'un trésor, mais qu'on porte dans des cruches. On est tous des vases d'argile extrêmement fragiles, mais on a en nous un trésor. Et ce dynamisme, ce trésor apparaît d'autant plus que justement le pot, la cruche casse, un peu comme dans l'histoire de Gédéon qu'on a raconté. C'est quand les cruches cassent que la lumière sort et que les trompettes là, mettent l'ennemi en fuite, les trompettes de la prédication. Pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. Et ça, il le dit dès la première aux Corinthiens. Je fais ce que je saute d'un sujet à l'autre. Je suis venu chez vous tout tremblant. Je n'ai rien voulu savoir parmi vous sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je me suis présenté à vous faible, craintif et tout tremblant. Et ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit et de puissance pour que votre foi reposât non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et alors ici, dans la deuxième aux Corinthiens, nous sommes pressés de toutes parts, mais non pas écrasés. Ne sachant qu'espérer, mais non désespérer, persécuter, mais non pas abandonner, terrasser, mais non annihiler. Nous portons partout et toujours en notre corps les souffrances de la mort de Jésus pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Quoique vivants, en effet, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Mais possédant ce même esprit de foi selon ce qui est décrit, c'est j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et nous placera près de lui avec vous. Nous ne faiblissons pas. Au contraire, même si notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il parle dans l'Épître aux Éphésiens, je crois, du baptême. On revêt l'homme nouveau qui va se renouvelant à l'image du Créateur. Et si on était vraiment chrétien, on demanderait à Dieu de vivre longtemps, pour mourir jeune. Étant donné que chaque instant d'existence, chaque respiration, chaque acte de charité nous rajeunit à l'image de l'exemplaire de l'éternelle jeunesse de Dieu. Il faudrait prier pour mourir jeune, pour vivre longtemps pour mourir jeune. Et c'est la seule recette d'ailleurs pour ne pas vieillir, c'est de pratiquer la charité, de sortir de nous-mêmes vers Dieu et vers les autres. Et dans la fin des Corinthiens, alors il devient pathétique. S'il faut se glorifier, j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont postérité d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ, je vais dire une folie, moi plus que par les travaux, par les emprisonnements, par les coups, etc. Vous lirez tout ça. Il faut se glorifier, j'en viendrai aux visions et révélations. Alors il parle de ces visions qu'il a eues. Pour cet homme-là, je me glorifierai, mais pour moi, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, je dirais la vérité, mais je m'abstiens, de peur qu'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou à ce qu'on m'entend dire. Et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter pour que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, par trois fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi, mais il m'a déclaré « ma grâce te suffit ». Car la puissance se déploie dans la faiblesse, c'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses endurées pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ouais. C'est pas une spiritualité réservée aux saints, c'est la spiritualité élémentaire, celle du baptême, celle du martyr. Et toute spiritualité chrétienne qui ne s'enracinerait pas là-dedans ne serait pas chrétienne. Et pour nous, c'est élémentaire. C'est un sujet de méditation. Il faudrait qu'on médite à ça quand on respire. Et on reçoit la vie de Dieu et puis à chaque instant, voilà, nous, ce mystère de mort et de résurrection imprimé au plus profond de notre être par le caractère baptismal se traduit. Notre homme extérieur part en ruine, notre homme intérieur se renouvelle à l'image du Créateur. On n'y croit pas. Hein. Il faudrait renouveler la foi en la résurrection. Actuellement, on est perplexe, on fait des statistiques. Hein. Heureusement que les statistiques disent pas la vérité, mais quand on intéresse, est-ce que vous croyez à la résurrection ? Alors, on entend parler de métempsychose, de tas de trucs, de spiritualité comme ça, éthérée, d'ectoplasme, mais la résurrection de la chair, c'est pas... Selon les Écritures, d'après saint Paul, quand on lit ses discours, tout cela, et puis Jésus ressuscité ouvre les Écritures. Alors ça sera notre route d'Emmaüs. Et je propose qu'on aille la commencer là-bas, un petit peu plus loin. Il y a un endroit, le haut lieu de Gabaon, et c'est là que Salomon a fait ce songe au début de son règne où il a reçu la sagesse. Et je crois que la route d'Emmaüs, qu'est-ce que c'est ? C'est le festin de la sagesse en plein sens du mot. Alors on va aller prendre le point de départ de la route d'Emmaüs là-bas. Avant de quitter ce tombeau, là, on est arrivé ici en parcourant les rues de la ville. Et le père Feuillet, là, qui est un des exégètes qui connaît le mieux la Bible par cœur, hein, qui a fait des commentaires sur le livre de Jonas, sur le Cantique des Cantiques, là, il dit que Marie-Madeleine, qui va comme ça au petit matin au tombeau, eh bien, que saint Jean décrit le récit, et certainement qu'il a dans la mémoire, dans la tête, ce qu'il dit au chapitre 3 du Cantique des Cantiques, « Sur ma couche, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai donc et parcourrai la ville, dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai point trouvé. Les gardes m'ont rencontré, ceux qui font la ronde dans la ville. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi et ne le lâcherai point. Et ne le lâcherai point. C'est le sublime et le banal, hein, c'est toujours la même chose. Il faut se méfier de tout sublime qui n'est pas banal. On cherche toujours du merveilleux. Et alors on dirait que ces récits de la résurrection sont justement, comme intentionnellement, d'une étrange sobriété. Si on les avait inventés, on aurait fait de la mythologie, on aurait fait les tremblements de terre. C'est vrai que dans saint Matthieu, il y a un peu ça aussi. Enfin, dans la plupart des récits, la rencontre se fait d'une façon extrêmement banale, sur la route d'Emmaüs. C'est ce qu'on va voir sur la route d'Emmaüs maintenant.